Il est midi et demi. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le chef du gouvernement conservateur espagnol Mariano Rajoy renversé comme prévu ce matin par le Parlement, remplacé par le socialiste Pedro Sanchez. On sera en ligne avec Marilène Ballestero dans un instant. Dans le même temps, en Italie, le gouvernement d'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles prête serment à Rome, correspondance avec Mathilde Imberti. En France, le Front National change aujourd'hui de nom pour devenir le Rassemblement National, analyse d'Anne Fauquemberg. Après l'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier, de 10% sur l'aluminium importé aux États-Unis par l'Union européenne, le Canada et le Mexique, l'heure est à la riposte. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, déclare que l'Europe va défendre ses intérêts face à cette offensive commerciale. On verra comment avec Quentin Dickinson. Le gouvernement lance un plan de soutien à la filière hydrogène. L'hydrogène peut devenir une solution majeure pour notre mix énergétique de demain, affirme le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, compte rendu de cette conférence de presse avec Rémi Inc. Et puis l'invité de la séquence interview, Bruno Dive, journaliste à Sud-Ouest, auteur d'un livre intitulé « Crime et renoncement » aux éditions de l'Observatoire. On y parle bien sûr de politique. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Il appelle à un renouveau du courant conservateur. Alors qui sont aujourd'hui ces penseurs, comment les fédérer et qui peut ou pas appartenir au club? On posera la question à notre invité, l'historien Olivier Dard. Il co-dirige un dictionnaire du conservatisme qui vient de paraître aux éditions du Cerf.
Et voilà donc une page de l'histoire politique espagnole qui s'est tournée ce matin au pouvoir depuis décembre 2011. Mariano Rajoy vient d'être renversé par le Parlement. Les députés du Congrès des députés se prononcent donc par 180 voix pour 169 contre et une abstention sur cette motion de censure adoptée donc. Au pouvoir donc depuis 2011, il avait survécu à plusieurs crises majeures, de la récession face à laquelle il avait imposé une sévère cure d'austérité, jusqu'au mois de blocage politique, c'était en 2016, jusqu'à cette dernière tentative de sécession de la Catalogne, pas plus tard que l'an dernier. Marilène Ballestero, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donc le socialiste Pedro Sanchez devient Premier ministre. Comment on peut qualifier ce changement, cette passation de pouvoir à Madrid ?
Eh bien, on peut qualifier ce changement, eh bien, totalement c'est-à-dire improvisé. Excusez-moi. Ça y est, donc, comme je vous le disais, c'est une étape qui vient de se tourner. C'est une étape de Rajoy qui vient de s'achever, car les 350 députés espagnols, comme vous le disiez, ont voté à tour de rôle dans une ambiance très particulière aujourd'hui dans l'hémicycle. Alors, d'un côté, le Parti populaire de Mariano Rajoy accuse le coup. Pourquoi ? Car ses visages sont graves et c'est compréhensible, vu que personne n'avait parié sur ce résultat il y a quelques jours. L'heure est grave pour les conservateurs et pour le parti de centre-droit Ciudadanos d'Albert Rivera, qui misait, lui, sur de nouvelles élections. Du côté des forces de gauche et des indépendantistes catalans, c'est tout autre chose. Les visages étaient très souriants aujourd'hui, car ils ont réussi finalement à chasser Mariano Rajoy du pouvoir. C'est donc une journée eh bien, historique ici, car c'est la première fois depuis le retour de la démocratie espagnole qu'une motion de censure est adoptée.
Voilà, le socialiste Pedro Sanchez qui se retrouve à la tête d'une majorité pour le moins hétéroclite. Il déclare vouloir écrire une nouvelle page de l'histoire de la démocratie en Espagne. Mais on ne sait pas vraiment trop ce qu'il y a sur cette page, Marilène.
Non, tout est à faire, tout reste à écrire. Tout d'abord, on ne sait pas du tout encore quel sera le gouvernement, s'il va y avoir des élections anticipées ou pas, car Mariano Rajoy est parti, mais désormais, celui qui va devoir gouverner, c'est le socialiste Pedro Sánchez. Il va devoir faire face eh bien, une majorité très hétéroclite, comme vous le disiez. Il va falloir désormais qu'il convoque des élections, mais on ne sait pas encore s'il va vouloir gouverner pendant quelques mois. A priori, oui. On ne sait pas encore quel sera son gouvernement. Est-ce qu'il va s'entourer de certains ministres du parti Podemos? C'est possible. Hier, il parlait d'une possible collaboration des socialistes et du groupe Unidos Podemos. Donc, on pourrait bien voir à la tête aussi de ce gouvernement socialiste. Et bien, peut-être Pablo Iglesias. Il faudra voir. Comme je vous le disais, c'est vraiment une page de l'histoire qui se tourne et tout est à faire. C'est Pedro Sánchez qui va devoir affronter arriver à cette nouvelle étape et cela va être compliqué pour lui de gouverner vu que, comme vous le disiez, la majorité est très hétéroclite.
Marie-Hélène Ballesteros, merci beaucoup donc en direct de Madrid. Et pour la première fois, donc, l'extrême droite arrive au pouvoir dans un pays fondateur de l'Union européenne, gouvernement d'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles qui prête serment aujourd'hui à Rome sous la direction d'un professeur de droit, Giuseppe Conte, qui a promis une politique anti-austérité et aussi sécuritaire. On est maintenant en ligne avec Mathilde Imberti. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Il faut d'abord souligner que la Ligue prend une place importante donc dans cette nouvelle équipe et son leader finalement, Matteo Salvini, apparaît bien comme le vainqueur, le vrai vainqueur du moment.
Effectivement, considérant le poids électoral de chacun, les 5 étoiles ont été choisies par un Italien sur 3 le 4 mars dernier, la Ligue par 17% des électeurs. On peut en tirer la conclusion que la Ligue est exagérément représentée dans ce nouveau gouvernement. Elle dispose d'un ministère sur 2 et de ministères importants. À l'intérieur, c'est Matteo Salvini lui-même, le secrétaire du parti, qui y prend la main avec une priorité, réduire le nombre d'étrangers présents sur le territoire italien. Pas plus tard qu'hier soir, il a estimé qu'il fallait tailler dans le budget alloué à l'accueil des demandeurs d'asile. À l'économie, ce sont les idées de la Ligue qui devraient dominer. Le ministre nommé, Giovanni Tria, est un professeur romain favorable à la baisse des impôts prônée par la droite et réclamée par les entrepreneurs du nord de l'Italie. Il est beaucoup moins enclin à appliquer la mesure phare des 5 étoiles, à savoir la mise en place d'un revenu minimum pour les Italiens sans ressources.
Oui, ça explique peut-être pourquoi les places financières n'ont pas mal réagi ce matin. La bourse de Milan est en hausse, les taux italiens se détendent. Les marchés qui ne redoutent pas tant donc l'extrême droite que la sortie de l'orthopraxie budgétaire. Ils misent donc sur une politique plus en phase avec Bruxelles. Mais sur cette question de savoir quelle va être maintenant la ligne suivie, il faut quand même rester prudent, j'imagine, Mathilde.
Oui, parce que ce gouvernement, en théorie, doit suivre une feuille de route. L'accord signé entre la Ligue et les 5 étoiles, le problème qui a été relevé d'ailleurs par le nouveau ministre de l'économie dans une de ses publications récentes, est le coût de ce programme. Plus de 100 milliards d'euros sans recettes pour compenser. Les deux parties parient certes sur une relance de la demande, mais dans une Italie surendettée, cela revient à demander un assouplissement des règles budgétaires européennes et les frictions avec les partenaires de l'Italie, en particulier avec l'Allemagne, risquent de se matérialiser très vite. À noter également sur ce volet européen la naissance d'un attelage curieux. Un europhile apprécié à Bruxelles a été choisi pour devenir ministre des Affaires étrangères, mais il est flanqué d'un ministre des Affaires européennes, lui, anti-euro, anti-monnaie unique. C'est Paolo Savona, dont le chef de l'État n'avait pas voulu au ministère de l'économie. Leurs premiers pas à tous les deux seront à suivre d'abord au G7 au Canada la semaine prochaine, puis à la fin du mois lors du prochain Conseil européen de Bruxelles.
Merci beaucoup Mathilde Imberti, donc en direct de Rome. Et en France, la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui voit dans cette victoire de la Ligue une victoire de la démocratie sur les intimidations de Bruxelles. Rien n'empêchera, dit-elle, le retour des peuples sur la scène de l'histoire. Quant au député du Gard, Gilles Bercollard, il se veut encore plus explicite puisqu'il affirme que la nouvelle alliance politique en Italie, c'est une expérience tout à fait centrale, préfiguration de ce qui pourrait se passer en France. Fin de citation donc du député du Gard, Gilbert Collard. On salue notre invité, l'invité de la séquence interview, Bruno Dive. Bonjour.
Bonjour.
Finalement, est-ce qu'il est possible que M. Collard ait raison? C'est quand même assez l'événement du jour, du moment, qu'un gouvernement, que l'extrême droite parvienne au pouvoir en Europe.
Oui, il y a deux événements, vous l'avez dit, l'Espagne et l'Italie. L'Italie, en effet, avec l'extrême droite. Je ne vois pas très bien ce que veut dire Gilbert Collard. J'ai l'impression que c'est plutôt, pour parler en bon français, du wishful thinking, parce que la situation n'est pas du tout comparable. La situation politique française et la situation italienne ne sont pas du tout comparables. Comment M. Collard voit les choses? Est-ce qu'il pense que le Front National, bon, qu'on peut considérer à peu près comme une sorte d'équivalent de la Ligue du Nord, et encore, la Ligue du Nord est un parti tout de même régionaliste, d'extrême droite, mais enfin, c'est tout de même pas tout à fait la même chose que le Front National. Mais quel est l'équivalent du mouvement 5 étoiles en France? Il n'y en a pas vraiment. On ne peut pas dire que ce soit la France insoumise, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et est-ce que le Front National est prêt à arriver au pouvoir avec la France insoumise? Je ne crois pas. On ne peut pas dire que ce soit En Marche, parce que bien qu'il y ait eu quelques contacts.
C'est la présence aussi d'En Marche qui a un peu bousculé, qui a modifié la situation.
Qui a bousculé, de même que le mouvement 5 étoiles en Italie l'a bousculé. Ça, de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais je ne vois pas ce que pourrait être l'équivalent d'une coalition à l'italienne en France.
Bruno Dive, journaliste à Sud-Ouest, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour la séquence interview. Vous restez avec nous parce qu'on va parler maintenant du Front National encore, puisqu'il change de nom aujourd'hui même pour devenir Rassemblement National. Nouvelle appellation donc qui avait été proposée par Marine Le Pen au congrès du parti en mars, qui est censé marquer le point d'orgue de la refondation d'un parti qui veut maintenant trouver des alliés pour gagner. D'ailleurs, Marine Le Pen a proposé hier soir, dans une lettre ouverte à son ancien allié du second tour de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, de figurer tous les deux sur une liste commune pour les prochaines élections européennes. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Donc, du Front National au Rassemblement National, qu'est-ce qui change véritablement ?
Eh bien, ce changement de nom, il permet à Marine Le Pen de continuer à dessiner le visage d'un parti fréquentable, Rassemblement, un terme moins guerrier que Front, avait expliqué la présidente du FN lors du congrès de Lille en mars dernier. Rassemblement pour avancer aussi vers une union des droites et pour s'inscrire dans une logique de gouvernement. Nous ne voulons plus être un parti d'opposition, a martelé le porte-parole du parti Jordan Bardella ce matin sur RFI. Une sémantique renouvelée donc pour séduire, mais sur le fond, les symboles demeurent. Le logo du parti ne changera pas et restera cette flamme tricolore inspirée du MSI, le parti néofasciste italien des années 50, comme un clin d'œil lointain à l'actualité européenne qui vient de voir arriver, on vient d'en parler, à la tête de la démocratie italienne, la Ligue, parti d'extrême droite, allié de Marine Le Pen au Parlement européen, un point d'appui important pour le FN et sa probable tête de liste aux européennes, Nicolas Bay, qui hier soir sur France Info mettait aussi en avant le mot national qui fera toujours partie de la nouvelle terminologie Rassemblement National comme Front National. Si les nationaux sont rassemblés, ils peuvent arriver devant La République En Marche le soir des européennes, selon Nicolas Bay. Mais le probable Rassemblement National est limité pour l'instant à Marine Le Pen et son parti. La stratégie d'alliance patine, la droite n'en veut pas et Nicolas Dupont-Aignan rêve d'une aventure en solo, pas complètement dupe, peut-être du recentrage sur une ligne plus identitaire après la défaite du deuxième tour de la présidentielle et en dépit de cette sémantique renouvelée.
Anne Fauquemberg, merci. Bruno Diff, peut-être un tout petit mot sur ces prochaines élections européennes. Comment se présentent-elles ? On a l'impression véritablement qu'il y aura un camp pro, un camp anti-européen, et ça sera un match, déjà un deuxième tour finalement.
Oui, elle se présente comme une poursuite de la décomposition, recomposition, on ne sait pas trop où on en est encore, de la vie politique française qui a donc avait commencé l'année dernière avec les présidentielles et les législatives. Et en effet, le clivage qui se dessine, c'est le clivage européen, non anti ou non européen, ou mondialiste ou nationaliste, que souhaite d'ailleurs établir d'une certaine manière Emmanuel Macron pour continuer à disperser ses oppositions et à faire éclater le paysage politique, qui peut être dangereux à long terme parce que l'alternative, qu'est-ce que c'est ? C'est justement, pour le coup, là, une coalition, alors à droite ou à gauche, je ne sais pas, la France Insoumise ou le Front National avec une alliance avec les Républicains, on ne sait pas trop, mais pour l'instant, aux européennes, il n'est pas question d'alternance, donc ce qui se dessine, c'est tout de même ce débat-là qui a eu lieu l'année dernière à l'élection présidentielle entre les deux tours.
Oui, et entre-temps, tout de même, les ambitions, disons, européennes ou de faire bouger l'Europe d'Emmanuel Macron ont du mal à se mettre en place pour la simple raison qu'il n'y a plus grand monde autour de la table pour éventuellement se saisir de ses idées. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour l'année prochaine ?
Exactement, et c'est là où il est le plus à la peine. Autant sur le terrain français, il réussit tout de même à faire avancer ses réformes et à faire à peu près ce qu'il souhaite faire. Autant sur le terrain européen, il est aujourd'hui en panne. Alors, ce n'est pas vraiment de son fait, mais c'est parce qu'il y a une situation qui est très compliqué. Quand on regarde, on a évoqué l'Espagne, l'Italie, quand on regarde les cinq principales puissances européennes, il y en a quatre qui sont en situation de crise ou de crise latente. L'Angleterre, j'en parle, les Royaumes-Unis, j'en parle même pas, c'est le Brexit. L'Italie, on vient de l'évoquer, avec cette coalition totalement improbable et anti-européenne, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. L'Espagne, une instabilité latente. Alors là, c'est le seul pays où il pourrait avoir trouvé des alliés, Ciudadanos, le parti centriste, mais est-ce qu'ils vont percer aux prochaines élections ? On ne le sait pas encore. Et puis l'Allemagne, avec cette grande coalition qui est tout de même assez, pour l'instant, assez immobile et au sein de laquelle ils ne trouvent pas les alliés espérés pour relancer les appuis espérés, du moins, pour relancer l'Europe.
Évidemment, un peu plus loin non plus, il n'y a pas d'alliés, puisque tous les pays
de l'Est, finalement. Et alors, ne parlons pas des pays du Nord qui lui ont fait subir une rebuffade sur sa volonté de plus d'intégration de la monnaie unique, c'était au début de l'année, et des pays ex-pays de l'Est où la vague populiste est au pouvoir depuis un moment.
Bruno Dive, on parle de votre livre dans la séquence interview tout à l'heure, Crime et renoncement, publié aux éditions de l'Observatoire. Le décret controversé qui impose la présence d'un crucifix à l'entrée des bâtiments publics en Bavière est entré en vigueur aujourd'hui. Tous les ministères, donc régionaux, palais de justice, commissariat de police, services d'urbanisme, etc., qui sont placés sous l'autorité de l'État régional, doivent désormais disposer de ce crucifix dans leur hall d'entrée à une place bien visible. Le ministre président de la Bavière avait justifié sa décision en affirmant en avril dernier qu'installer des crucifix, eh bien, c'était pas promouvoir un signe religieux, mais reconnaître une identité, l'expression d'une empreinte historique et culturelle. En tout cas, les Verts, la gauche radicale, Die Linke dénonce une mesure populiste et contraire à la Constitution. Après 2 mois d'exemption, les États-Unis imposent depuis aujourd'hui même des droits de douane, 25% donc sur l'acier, 10% sur l'aluminium importé aux États-Unis, importé donc en provenance de l'Union européenne, du Canada et du Mexique notamment. Ottawa et Mexico ont déjà annoncé des mesures de rétorsion assez fortes. À Bruxelles, toutefois, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, assure que l'Union européenne n'est en guerre contre personne. Elle souligne qu'elle va défendre les intérêts européens, que l'Europe défendra ses intérêts face à cette offensive commerciale. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour Bruno et bonjour à tous.
Quelle est la stratégie de l'Union européenne et a-t-elle les moyens, elle aussi, de finalement répliquer aux États-Unis ?
Eh bien, l'approche des Européens est nettement plus nuancée que celle des Canadiens, des Mexicains ou des Japonais. Ne pas imposer la loi du talion, mais pas question non plus de se laisser faire. Il y aura donc des mesures compensatoires pour les industriels européens lésés, sous forme de surtaxes à l'importation dans l'UE, de nombre de produits made in USA, pour un total de près de 3 milliards d'euros. Et les produits visés sont très précisément choisis. Ils sont autant de symboles du mode de vie à l'américaine. Ils comprennent aussi bien les blue jeans que le jus d'orange de Floride, les motos Harley-Davidson ou le bourbon du Kentucky, tous originaires de circonscriptions qui, à la présidentielle, ont majoritairement voté pour Donald Trump. Parallèlement, dès que les surtaxes américaines sont constatées, l'UE saisit l'OMC de façon à faire acter l'illégalité de la démarche américaine qui s'appuie sur une assez bancale justification de protection des intérêts militaires des États-Unis. L'originalité des Européens, c'est qu'ils entendent saisir l'OMC simultanément d'une plainte contre le non-respect institutionnalisé de la part de la Chine des normes internationales en matière de protection de la propriété intellectuelle, façon d'affirmer le rôle central de l'Union européenne dans les grands équilibres commerciaux multilatéraux négociés et réglementés. Cependant, les Européens n'entendent pas aller au-delà, au moins dans un premier temps, préoccupés qu'ils sont d'éviter l'ouverture par les Américains de nouveaux fronts, notamment sur les voitures allemandes de haut de gamme, alors que les dégâts collatéraux des sanctions américaines contre l'Iran viennent déjà compliquer davantage la donne mondiale.
Merci beaucoup Quentin Dickinson, vous étiez en direct de Bruxelles et puis la Commission européenne qui a présenté ce matin ses propositions pour moderniser ses aides agricoles, ça signifie les baisser donc sous la pression d'un budget en baisse lui-même. La Corée du Nord et la Corée du Sud conviennent de tenir des pourparlers militaires le 14 juin prochain, c'est ce qu'annoncent les deux pays ce matin dans un communiqué des discussions qui auront lieu dans le village de Panmunjom, donc cette localité située dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Le gouvernement a lancé ce matin un plan de soutien à la filière hydrogène. C'est une filière qui permettrait sans doute, d'après le ministre en tout cas de la transition écologique, d'être une solution pour notre mix énergétique de demain. Rémi Inc, bonjour. On va évoquer les grands axes du plan du gouvernement, mais il faut quand même que vous nous rappeliez ce que c'est que cette filière hydrogène qui est quand même assez mal connue en France.
Alors l'hydrogène, c'est Antoine, l'un des éléments les plus abondants de l'univers. C'est une molécule très simple qui est présente dans l'eau. C'est le H de H2O. C'est une molécule qui renferme énormément d'énergie. Elle permet de stocker l'électricité ou de rendre les processus industriels plus propres. On peut produire de l'hydrogène de façon propre et en l'utilisant dans une pile à combustible, eh bien l'hydrogène se transforme en électricité et en eau. Et c'est là que ça devient intéressant puisque cela permet ensuite de l'utiliser comme un carburant propre, sans émission de polluants, sans émission de CO2.
Alors que contient le plan du gouvernement ?
Alors 3 axes dans ce plan du gouvernement. Tout d'abord l'industrie. L'hydrogène est utilisé principalement dans l'industrie, dans le raffinage, la chimie, les engrais. Sa production avec des gaz fossiles représente une fraction importante des émissions de gaz à effet de serre de nos entreprises industrielles. Pour le ministre de la Transition écologique, il faut donc aider les entreprises et augmenter la part d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel d'ici à 2023.
Pour avoir l'action la plus efficace possible, évidemment, nous allons aider d'abord les petites usines qui n'ont pas déjà leur propre installation de production et payent très cher pour se faire livrer l'hydrogène. Avec un électrolyseur, elles pourront maintenant le produire sur place. Ce n'est pas un marché qui est facile, mais on va y mettre tout ce qu'il faut pour verdir ces usages avec pour objectif, dans un premier temps, de fournir 10% d'hydrogène vert en 2023 et entre 20 et 40%, ça dépendra du succès de notre plan, en 2028.
Alors, autre axe de ce plan, développer les capacités de stockage des énergies renouvelables. On sait que c'est aujourd'hui l'un des principaux problèmes. Enfin, troisième axe, développer des solutions zéro émission de CO2 pour les transports, transports routiers avec par exemple le développement des flottes de véhicules professionnels, 5000 voitures, 200 poids lourds à l'horizon 2023. Transport ferré également. On sait qu'Alstom construit des trains qui roulent à l'hydrogène en Allemagne. Il faut le faire en France, affirme Nicolas Hulot. Mission d'ailleurs parlementaire a été confiée à Benoît Simian, député de la Gironde, pour tenter de verdir le parc ferroviaire avec un objectif, inaugurer un train roulant à l'hydrogène d'ici à la fin du quinquennat. Pour faire ce plan hydrogène, 100 millions d'euros seront débloqués pour 2019, une somme qui devra être renouvelée chaque année si les projets avancent. Les acteurs du secteur sont aujourd'hui confiants, mais souhaitent surtout que ces investissements continuent et deviennent tout à fait pérennes.
Rémi Inc, merci avec Stéphane Beaufis donc pour cette conférence de presse. Retour vers notre invité Bruno Dive, journaliste à Sud-Ouest, auteur de Crimes et renoncements aux éditions de l'Observatoire, sous-titré Quand la politique dépasse la fiction, Anne Fockenberger.
Bonjour Bruno Dive.
Bonjour.
Votre livre, c'est une plongée dans les arcanes de la campagne présidentielle, une élection qui a bouleversé le paysage politique français. On a l'impression qu'il vous a fallu écrire comme pour fixer tous ces changements. Vous qui êtes un observateur de la vie politique depuis 30 ans, c'était beaucoup aussi à digérer pour vous.
Oui, vous venez de rappeler en manière subliminale mon âge. En effet, j'ai quelques campagnes électorales au compteur et c'est évidemment la plus incroyable qui m'ait été donnée de vivre et de commenter. Et donc, en effet, j'ai éprouvé le besoin en voyant tout ce qui se passait déjà dans les primaires de droite, de gauche, le retournement de cette élection, la suite aussi, parce que ce n'est pas uniquement un livre sur la campagne, mais un peu sur la mise en place du dispositif que nous connaissons actuellement. J'ai eu envie d'écrire là-dessus et j'avais en effet besoin d'écrire ce livre et j'ai trouvé que c'était tellement romanesque que j'ai essayé de soigner l'écriture pour l'écrire à la manière d'un roman. Un roman vrai, évidemment.
Oui, ça s'appelle Crime et renoncement, effectivement.
Crime et renoncement, voilà. L'inspiration. Oui. L'idée de départ, c'est le renoncement, en fait. Les crimes, c'est un grand mot, évidemment. Il peut y avoir le petit crime d'Emmanuel Macron vis-à-vis de François Hollande. Le reste, c'est surtout toute une génération politique qui s'efface. Après la primaire de droite, Sarkozy, Juppé, la primaire de gauche... Valls, Hollande qui renonce à se présenter, c'est quelque chose qu'on avait jamais vu. Alors ces gens sont encore plus ou moins dans le paysage, mais on voit bien qu'ils ne peuvent plus compter énormément.
Mais justement, par rapport à toutes ces figures de l'ancien monde qui ont été balayées, vous dites qu'Alain Juppé est celui qui s'en sort le mieux, qu'il est de plein pied dans le nouveau monde. Pourquoi ?
C'est-à-dire que quand on va à Matignon, on retrouve l'équipe de campagne d'Alain Juppé, l'équipe qui a fait la campagne de la primaire d'Alain Juppé. C'est assez spectaculaire. Il ne manque plus que Juppé, quoi. Il y a son conseiller politique, Gilles Boyer, il y a son premier lieutenant, si vous voulez, Édouard Philippe, bien sûr, ses attachés de presse, Charles Lufnagel, quelques autres.
Vous voulez dire que s'il y avait eu Juppé, il y aurait eu la même politique?
Et la politique, la politique, il le dit lui-même d'ailleurs, parce que j'ai vu, c'est celui que j'ai vu le plus longuement après l'élection pour qu'il me raconte toute cette période, et c'est la première fois, c'est la seule fois d'ailleurs qu'il parle de tout ce printemps 2017. Les politiques sont assez semblables. Il dit d'ailleurs qu'il n'a pas grand-chose à redire sur ce que ferait Emmanuel Macron, et c'est pas surprenant puisque c'est son principal lieutenant qui est au pouvoir.
Alors pour poursuivre sur les anecdotes de cette confrontation ancien monde, nouveau monde, François Bayrou, il arrive au ministère de la Justice, il cherche le téléphone interministériel au lieu d'utiliser son téléphone portable.
Oui, c'est lui-même qui l'a raconté, ça. C'est qu'il n'avait pas été ministre depuis 20 ans, il revient. Bon, c'est tout de même été un faiseur de roi d'Emmanuel Macron. Il a joué un rôle considérable à un moment difficile de la campagne pour Emmanuel Macron. Il lui a apporté son soutien, ça a donc été déterminant. Et il arrive, il est un peu désarçonné, mais François Bayrou est aussi une victime d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, puisqu'on voit
la manière dont il, d'abord, il n'obtient pas Matignon comme il en rêvait secrètement, c'est une première déconvenue, et puis il est exfiltré tout de même assez rapidement du gouvernement. Bon, pour cette question, vous vous souvenez d'emploi présumé fictif au Parlement européen qui concernait son parti, mais on sent bien que Emmanuel Macron était tout de même content de se débarrasser de celui qui était devenu comme un gêneur, comme un ministre, comme une source de couac. Et ce que ne voulait pas voir, ce qu'il ne voulait pas voir.
Une dernière question. Est-ce que le nouveau monde est durable, selon vous?
Je crois qu'on est parti pour... J'aime pas beaucoup ces expressions ancien monde et nouveau monde.
Vous voyez ce que je veux dire.
Mais on voit très bien, oui.
C'est en effet
une manière de résumer. Voilà. Je pense que c'est parti pour durer. On en parlait tout à l'heure, les élections européennes vont confirmer le clivage qui s'est installé, les élections municipales ensuite. Est-ce que Emmanuel Macron sera réélu? On n'en sait rien.
Enfin, je ne pense pas... La politique dépasse la fiction. Donc ça veut dire que là, on ne va pas revenir à la politique à un moment donné, sortir de la fiction. Revenir à quelque chose
je
de plus.
Je ne pense pas que les clivages politiques. Je pense qu'un jour ou l'autre, le clivage politique droite-gauche, après Emmanuel Macron, reprendra ses droits. Pour combien de temps Emmanuel Macron est là? Est-ce que c'est 5 ou 10 ans? On n'en sait encore rien. Mais je pense que c'est parti pour avoir ce grand mouvement central et des oppositions éclatées pour un bon moment.
Voilà. Ça donne de la durée de vie à votre livre et de l'intérêt à
Espérons-le.
Votre livre. Crime et renoncement. Quand la politique dépasse la fiction. Bruno Dive, c'est aux éditions de l'Observatoire. La météo améliore. Amélioration du temps, alternance de nuages et d'éclaircies cet après-midi, 18 à 27 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. 17h, ce sera le magazine Le Vieux Lion face à l'ultra-droite. Le Vieux Lion, la ville de Lyon. Reportage d'Antoine Marette, réalisation Annie Brault, présenté par Aurélie Kiffer. Prochain journal, 18h avec Camille Magnard.